historiquement vôtre.
Le récit.
Ne perdons pas de temps, pénétrons dans la classe d'un professeur on ne peut plus atypique. Un enseignant indiscipliné qui, à plus de 70 ans, s'amusait encore à tirer la langue aux photographes. Le savant et excentrique professeur Einstein, dont la théorie sur la relativité générale et sa formule mondialement connue E égale MC2 l'ont propulsé au rang de héros. Einstein est un physicien allemand à l'origine des plus grandes avancées scientifiques du XXe siècle. Un cerveau, comme on dit, qui disait à propos du système scolaire « Les professeurs à l'école m'ont fait l'effet de sergent et au lycée de lieutenant ». Traduisez 0 sur 10 pour ces maîtres d'école qui n'ont jamais réussi à le faire rentrer dans le moule du parfait petit écolier allemand.
Ah, pourtant, ils sont sacrément bons, ces sablés au chocolat.
Vous
prendre l'accent de Stéphane imitant l'allemand.
Donc non, vous parlez très bien allemand finalement. Einstein nourrit une grande rancœur envers ses anciens professeurs. Alors quand, quelques années plus tard, il enseigne à son tour, il en était l'exact opposé. Pour lui, hors de question de revêtir l'habit de l'enseignant bourreau qui tyrannise ses élèves. Il est un maître bienveillant, farfelu certes, mais indéniablement charismatique. Mais n'imaginez pas qu'Albert Einstein, prix Nobel de physique pour l'année 1921, consacre sa vie entière à instruire sans relâche de jeunes étudiants. Au contraire, sa carrière de professeur est aussi fulgurante que la vitesse de la lumière.
Soit à peu près 300 000 km/s, hein, je le précise pour...
Bravo Mathieu, voilà. Bravo. Ouais. Je ne vous savais pas si passionné de physique. Remontons le temps...
Mais j'ai eu 12 au bac, c'est pas mal.
Ah oui, bien. Et découvrons-en... J'ai eu 4, moi. Et découvrons ensemble le parcours scolaire du professeur Einstein. Il naît en 1879 à Ulm, en Allemagne. Ses parents, bourgeois, sont juifs non pratiquants. Son père possède une entreprise qui vend de l'eau, du gaz, puis du matériel électrique. Il veut que son fils soit ingénieur, mais Albert Einstein souhaite devenir professeur et surtout chercheur en physique. Pourtant, ses premières années sur les bancs de l'école se révèlent chaotiques. Albert Einstein ne supporte pas la rigueur militaire qui règne dans les classes allemandes. Les ordres, les devoirs, apprendre par cœur des leçons l'exaspèrent. Il ne manque pas une occasion de le faire remarquer et de tenir tête à ses maîtres. À tel point qu'il devient rapidement l'élève le plus détesté par ses enseignants. Son professeur de grec ne mâche pas ses mots. « Vous altérez le respect de la classe à mon égard par votre seule présence. »
Parle bien français pour un grec.
Et en plus, il le disait en allemand. Justement, Albert Einstein, lui, peine en langue et en histoire, mais survole les mathématiques et la physique. Le problème, c'est qu'en Allemagne, à la fin du XIXe siècle, ces matières scientifiques sont considérées comme les moins nobles. En 1895, resté seul à Munich, il rejoint ses parents en Suisse sans prendre le temps de passer son baccalauréat. Passionné par les sciences depuis qu'il les a découvertes dans un livre de géométrie à 13 ans, il n'a qu'une idée en tête, réussir le concours d'entrée d'une prestigieuse école, le Polytechnicum de Zurich. Il réussit au bout de la deuxième fois. C'est là-bas qu'il rencontre sa première femme, Mileva Maric, une étudiante serbe avec qui il aura 3 enfants. Après 4 années, il sort diplômé. Alors que ses anciens camarades de promotion s'installent confortablement dans leur fauteuil de professeur, lui décroche un poste à l'Office des brevets de Berne. La ville, hein, pas moi. À 23 ans...
C'est vrai, c'est vrai. Vous avez un partenariat avec la ville de Berne ou pas?
Aucun.
Est-ce que vous n'êtes pas citoyen d'honneur?
Non, même pas. On partage des ours, c'est tout. À 23 ans, il devient le plus jeune agent technique de 3e classe jamais embauché. Son rôle est simple. Après étude de dossier, il décide si les inventions soumises sont susceptibles ou pas d'être brevetés. Pendant 7 ans, l'ancien étudiant rebelle gagne un peu en sagesse. Il profite surtout de cet emploi stable pour développer des théories qui vont bientôt révolutionner le monde scientifique. La relativité, la physique quantique et le petit mouvement de la matière. En 1905, c'est la consécration. Lui, le jeune employé de l'Office des brevets de Berne, voit ses articles publiés dans une revue allemande. Ses recherches sont saluées dans le monde entier.
A star is born, comme disait Lady Gaga.
Oui, tout lui sourit. Marié, à la tête d'une famille, Einstein est désormais reconnu par ses pairs et il est sollicité par les plus brillants établissements. Sa carrière de professeur peut enfin décoller. Et vous allez voir qu'elle va le mener très loin.
Europe 1, historiquement vôtre.
Là, je commence à vous connaître, Stéphane. J'imagine qu'il va falloir patienter des années-lumière pour que vous nous révéliez l'ascension vertigineuse du professeur Einstein.
Oui, ce sera très court, Mathieu, très court.
C'est le petit plaisir de Stéphane, vous faire mariner pile quand ça devient intéressant. Ah, on peut dire que vous savez vous y prendre.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement Vôtre continue 2 heures à la frontière du rire et du savoir. En guise de douanier, l'impayable Stéphane Bern, pas au sens qu'il est drôle, mais juste qu'il est cher. Stéphane, aujourd'hui, alors que nos chères têtes blondes retrouvent les bancs de l'école, ensemble nous évoquons 3 personnages qui ont marqué l'histoire de l'enseignement. Léopold Mozart, tout à l'heure, Brigitte Macron, dans un instant, mais pour l'heure, vous nous parliez d'un type assez doué en sciences, un certain Albert Einstein.
Oui, un professeur allumé, mais brillant. Alors, depuis qu'il a publié ses théories révolutionnaires et notamment présenté sa célèbre formule E égale MC2, Albert Einstein fait partie du gratin scientifique mondial. Dans les années qui suivent, son carnet de bal est bien rempli. Berlin, Genève, Bruxelles, Paris. On lui demande de venir expliquer ses recherches partout en Europe. Albert Einstein tient sa petite revanche. En 1909, il a 30 ans et il est officiellement investi professeur de physique théorique à Zurich. 2 ans plus tard, c'est la grande université de Prague qui lui propose un poste similaire.
Alors on est très loin de M. Fournet, mon prof de maths en 5e C.
Einstein est clairement aux antipodes des autres professeurs, du maître de conférences guindé auquel les étudiants sont habitués. Imaginez, les cheveux et la moustache en bataille, un costume un peu lâche, le regard malicieux de l'éternel laborantin en quête de solution à un problème. Il sollicite ses élèves, leur demande de participer activement à ses recherches. Ils sont fascinés. Le problème, c'est que le physicien Einstein est incapable de se tenir au programme scolaire. Ses cours n'ont pas de lien entre eux d'une semaine sur l'autre. Il préfère les axer sur ses propres travaux d'études. Malgré ce désordre de façade, sa notoriété grandit et il est appelé à de plus hautes fonctions. En 1914, Einstein a 35 ans. Il franchit une nouvelle étape. Lui, qui s'était juré de ne jamais revenir en Allemagne, accepte de diriger le grand institut de recherche de Berlin. Salaire attractif, moyens illimités, il ne peut pas refuser un tel tapis rouge.
Beaucoup de similitudes avec votre propre arrivée à Europe 1, Stéphane.
Sauf qu'à Europe 1, le tapis est bleu, Mathieu.
C'est juste.
Pour revenir à Einstein, sachez que jusqu'à la fin de sa vie, 41 ans plus tard, il ne va plus enseigner. Il est désormais chercheur à plein temps. Il n'aura finalement été professeur que durant 6 années. Ensuite, Einstein oscille entre ses recherches, son intérêt pour la politique. Peu de monde le sait, mais vous savez, il a refusé d'être candidat à la présidence d'Israël comme le lui avait proposé le Premier ministre en 1952. Et Einstein garde du temps pour son amour, pour le violon. Il voue d'ailleurs, hasard de notre sommaire, une admiration sans borne à Mozart et à ses sonates.
Vous savez d'ailleurs, Stéphane, que je connais bien son père à Mozart.
Ah oui ? Grâce à qui ?
À vous.
Ah voilà, transmettre, toujours transmettre. D'ailleurs, au fil des années, Einstein se donne pour mission de transmettre sa passion des sciences au plus grand nombre. Réfugié à Princeton, aux États-Unis, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, il met un point d'honneur à répondre aux 16 500 lettres qu'il reçoit durant toute sa vie.
Presque autant que vous, Stéphane. Elles s'accumulent sur le bureau, il faudrait d'ailleurs les récupérer.
Là, ce sont surtout, il faut bien le dire, des lettres d'étudiants, d'écoliers, souvent pauvres, qui demandent des conseils à Einstein. Einstein qui disait, je le cite, que les savants ont le devoir de partager leur savoir et de l'expliquer, pas pour être connus et admirés, mais pour défendre la liberté et la démocratie. Voilà qui est bien dit.
Europe 1, historiquement vôtre.
J'ai l'impression que rien qu'en parlant d'Einstein, un peu de son intelligence rejaillit sur nous. C'est pourquoi on continue de parler d'Einstein, on ne s'arrête pas, avec Étienne Klein, philosophe des sciences, auteur notamment du Pays qu'habitait Albert Einstein chez Actes Sud, et de la présentation de Comment je vois le monde, un recueil de textes d'Albert Einstein paru chez Flammarion. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, j'ai terminé mon récit par cette citation d'Einstein. Les savants ont le devoir de partager leur savoir et de l'expliquer, pas pour être connus et admirés, mais pour défendre la liberté, la démocratie. Au fond, c'est vraiment la transmission avec beaucoup d'humilité qui animait Einstein et le goût de la liberté et de la démocratie.
Oui, je ne veux pas parler en son nom, mais je pense qu'il considérait que la science, elle est républicaine. C'est-à-dire, c'est une affaire publique. Mmh. Et dans une république digne de ce nom, elle doit pouvoir circuler
librement,
sans obstacle, sans contestation, avec discussion, mais sans que des préjugés ou des idéologies viennent l'arrêter. Mais il pensait aussi qu'elle n'était pas démocratique, au sens où la valeur de vérité d'une théorie scientifique ne se décide pas par un référendum.
Et est-ce qu'il avait un ego ? On a l'impression qu'il était humble, Einstein. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il avait vraiment un ego un peu...
Non, il était conscient de la valeur de ses travaux.
Ouais.
Mais en tant que personne, il était d'une humilité absolue, qui d'ailleurs est en contradiction avec ce que nous montrent aujourd'hui certains scientifiques.
Ah oui, pas de nom.
Oui.
Pas de nom.
Bon, on va vous retrouver dans un instant, Étienne Klein, pour continuer à parler d'Einstein dans Historiquement Vôtre.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Comme Stéphane et moi, vous êtes double. Vous pouvez rire à gorge déployée devant la 187e diffusion de La Vérité si je mens 2 sur Chéri 25, mais vous pouvez aussi vous passionner pour une soirée théma d'Arte consacrée à l'analyse historiographique des messages de la Bible. Parfois d'ailleurs, tout ça se mélange un peu dans votre tête.
Donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Ah non, ça c'est Enrico Macias.
C'est bien normal Stéphane, c'est ça d'être éclectique. Heureusement, pour évoquer dans le détail et un peu plus sérieusement notre deuxième personnage du jour, Albert Einstein, nous sommes toujours avec le physicien et philosophe des sciences, Étienne Klein.
Il y a cette E égale M6, ce que vous
E égale M6, très très... formule effectivement la plus connue d'Einstein.
Non, c'est E égale MC2. Mais comment vous pourriez l'expliquer, cette théorie,
Étienne
Klein, en une minute à mon ami
meilleur prof qu'Einstein.
Qui a quand même eu 12 en physique au bac.
Comme Einstein l'a fait dans son article de septembre 1905, qui était un article d'une page et demie, dans lequel il y a la formule écrite avec d'autres notations, mais peu importe. Vous prenez un métal, vous le chauffez, il émet de la lumière. En émettant de la lumière, il perd de l'énergie. La lumière n'a pas de masse. Donc il perd de l'énergie sans perte de masse. Et Einstein dit, ce raisonnement que je viens de tenir avec votre acquiescement est faux. C'est-à-dire qu'un corps, dès lors qu'il perd de l'énergie, même si l'énergie qu'il perd n'a pas de masse, perd quand même de la masse. Et la formule E égale MC2 vient établir l'équivalence entre l'énergie émise et la masse perdue.
Je viens de prendre une photo de Stéphane Bern, mâchoire décrochée, et je la publierai sur les réseaux sociaux.
Ah non, vous ne pouvez pas
parce que vous avez bien suivi l'histoire de la formule.
Mais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux de toute façon.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Un mot sur l'homme, Einstein. Bon, la physique comptait pour lui plus que tout, quitte à délaisser femme et enfant au profit de ses recherches. C'était pas un bon père ou un bon mari particulièrement. Lui, sa fascination, c'était la physique, point barre.
Je sais qu'on a peu de temps, mais il ne faut pas caricaturer.
Ah non, il était aussi
un
bon père.
Il n'a pas abandonné ses enfants. En fait,
non, je ne dis pas ça, mais
il était allé
c'était
à Berlin
sa priorité,
en 1914. Sa femme l'a accompagné, Mileva, avec ses deux enfants. Leur relation était détériorée, donc ils ont...
Il y avait des maîtresses aussi, bouffon.
Oui, mais bon...
Qui n'en a pas, Stéphane
elle est rentrée...
Vous, moi
ah oui, bien vu, j'avais
oublié. Attendez, elle est rentrée en Suisse, lui est resté à Berlin, il devait se voir régulièrement, sauf que la guerre a été déclarée, et pendant ces années-là, il n'a pas plus...
Ah oui, on ne peut pas lui imputer le fait...
Non, après, c'est un long chapitre, on ne peut pas le caricaturer. Avec Mileva, il a eu une relation, et avec sa deuxième épouse, qui était sa double cousine, puisque c'était la fille d'une sœur de sa mère et d'un frère de son père. Il a épousé en deuxième noces.
Ça vous plaît, ce genre d'histoire un peu consanguine, Stéphane? Si, ça vous excite.
Il a épousé en deuxième noces sa double cousine, qui portait déjà son nom.
Oh là. Alors,
une autre histoire.
Ça explique beaucoup de choses. Vous dites, Étienne Klein, qu'il avait l'art de poser des questions d'enfant et de les résoudre avec un cerveau d'adulte.
Oui, c'est ça son génie, de poser des questions d'enfant. Il dit d'ailleurs qu'il a trouvé la théorie de la relativité grâce à son retard mental. C'est-à-dire que les questions d'espace et de temps, c'est des questions qu'on résout avant l'âge de 7 ans ou à partir de 7 ans. On a compris que l'espace, ça se mesure avec des règles, que le temps, ça se mesure avec des horloges. Et une fois qu'on a compris cela, c'est réglé. Et Einstein, lui, s'est posé des questions relatives à l'espace et au temps avec un cerveau d'adulte grâce à son retard mental. Et il posait des questions très naïves. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si la lumière émettait de la lumière?
Oula.
Quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière? La lumière va à la vitesse de la lumière. Si elle émet de la lumière, on ajoute les vitesses. Donc la lumière émise par la lumière va deux fois plus vite que la lumière.
Là, je ne me sens pas une lumière.
Et il comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, il doit y avoir de la lumière de vitesse infinie. Et là, il voit qu'il y a un problème.
Et c'est là qu'on est content que l'émission soit disponible en podcast. Comme ça, vous pourrez réécouter Étienne Klein
et comprendre
au ralenti et tout comprendre parfaitement. Merci beaucoup Étienne Klein de nous avoir éclairé sur Albert Einstein. Je rappelle votre ouvrage « Le pays qu'habitait Albert Einstein » paru chez Actes Sud.
Europe 1, historiquement vôtre.